LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Alors, parmi les téléspectateurs mécontents, je note des critiques qui s'adressent surtout aux variétés, mais aussi aux films et à la violence qui se dégage de beaucoup d'entre eux. Critique, les programmes sont tristes. Dans l'ensemble, les téléspectateurs réclament une télévision plus souriante. Pourquoi pas d'émission avec les chansonniers, demande le Parisien libéré. Je vous cite un extrait d'une lettre d'un téléspectateur de Chartres. Avec la vie que nous menons, nous avons besoin de détente. Pourquoi les programmes sont-ils dans leur ensemble si noirs, si pleins de meurtres et si tristes? Où est l'humour? Où sont les sourires, la fraîcheur, le plaisir de vivre? Peut-être chez les responsables, mais sûrement pas dans les émissions. Voici un premier groupe de questions.
1974, Pompidou est mort. Un documentaire de Christelle Lepolotec et Anne Fleury. Troisième partie, la France orpheline.
Madame Baudrier.
Sur quelle question? Parce qu'il y en avait plusieurs.
Non, de savoir si les programmes sont...
Les films et la violence qui s'en dégage.
La gaieté et la violence.
Et la médiocrité des variétés. C'est une appréciation globale. Je ne fais pas de personnalité.
Alors, la tristesse des programmes, je reconnais que c'est très difficile, c'est plus difficile de trouver des textes gays, Alain Decaux peut peut-être nous expliquer pourquoi, en tant qu'auteur, que des textes tristes. Peut-être parce qu'une intrigue dite dramatique est plus forte quand l'histoire est triste. On dit beaucoup que les peuples heureux comme les individus n'ont pas d'histoire. Nous essayons quand même de mettre de la gaieté dans nos programmes. Si je pense à la première chaîne, je citerai Henri Salvador, Thierry Luron, qui ont en effet reçu un accueil très enthousiaste du public. Il y a quand même dans nos programmes un pourcentage important de variétés qui ne sont pas des variétés aussi médiocres. J'ai le représentant du Grand Échiquier qui fait une émission de fort bonne qualité. La semaine dernière, sur la première chaîne, il y avait Montant par averti, et le lendemain, dans le Grand Échiquier, qui a été, à mes yeux, un des meilleurs grands échiquiers, il y avait Brassens et De Vos. Je pense que, dans ce domaine-là, nous avons à la fois gaieté et qualité. Quant à la violence dans les films, c'est difficile, de plus en plus difficile, de trouver des films qui ne soient pas violents. On peut le déplorer, nous y veillons, mais, vous le savez, c'est une tendance actuelle du cinéma.
Quand je me suis plongée dans les archives de ce printemps 74, j'imaginais trouver de longs enregistrements où les Français confieraient leur désarroi, voire leur angoisse, face à la mort de leur président. Des interviews de spécialistes tentant de rassurer la France après ce traumatisme. Mais rien de tout ça. La vie a continué exactement comme si de rien n'était. L'actualité de ce mois d'avril dans les médias, c'est l'élection présidentielle à venir, la multiplication des candidatures à droite et l'UDR qui se déchire. L'autre sujet dont on parle beaucoup en France, c'est la crise sociale, amplifiée par le choc pétrolier et l'inflation, mais surtout la violence, comme en témoignent les titres de la presse de l'époque. L'Aurore, de véritables pillards ont mis à sac deux quartiers de Paris. Le Journal du Dimanche, saccage gauchiste dans Paris. Le Parisien libéré, raid de commandos organisés et encadrés dans Paris. Le Nouvel Observateur, lui, témoigne de la violence policière. Je cite « Pour un incident qui réclamait une opération de 5 minutes, la police va semer la panique dans tout le quartier jusqu'à minuit. Une courette vers la bouche du métro, les coups tombent par-dessus les grilles, tant pis pour les têtes. Faire peur et humilier. À l'angle de la rue de la Huchette, un lycéen perd son écharpe. Délicatement, un flic la ramasse et la dépose en rigolant dans le caniveau où coule un filet d'eau dégueulasse. Cette société fracturée, on la retrouve aussi sur les écrans de cinéma, miroir de la société française de cette année 74.
On n'aurait plus craindre, on n'aurait plus attendre dans ce film.
La femme de Jean, donc de Yannick Bellon, que les critiques sont unanimes à vous recommander, ce qui ne va pas être le cas, je pense pas en tout cas, pour les valseuses de Bertrand Blier d'après son roman. Georges Charansol, puisque vous avez la parole.
Le masque et la plume.
C'est Robert Benayoun, oui.
Non, moi, je veux dire, là, vous êtes très dur contre un film.
C'est Nicolas Dravoli qui parle. Là.
Non, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce film. C'est pas un chef-d'œuvre, il ne faut pas le placer très haut. Je ne vois pas non plus que le roman de Bertrand Blier soit si mauvais. C'est un roman qui décrit la vie de deux voyous de banlieue qui traversent la France, qui font les 400 coups, qui draguent des filles, qui campent dans des villas volées, se révoltent comme ça contre la société, contre les flics, qui n'ont qu'une crainte en fait, c'est de finir en prison. Et la force du film, c'est que Bertrand Blier a réussi à nous les faire aimer, ces deux personnages. Et Miu Miu aussi. Mais si, Georges. Et bah si les gens y vont beaucoup, c'est parce qu'il y a un spectacle et que le film existe. Vous pouvez pas nier ça.
Robert Benigni, il y a effectivement de la tendresse quand même dans
mais
ce
oui,
film.
Mais oui, il y a, il y a un vrai amour pour cette
trois personnes. Il y a une sympathie. Le mot tendresse ne convient pas à ce film qui est entièrement rébarbatif.
Il est très chaleureux, au contraire.
Je donne mon opinion. Moi, je le trouve, dans l'ensemble, répugnant, ces personnages. Je trouve qu'il n'y a pas de tendresse. Je trouve qu'il y a une certaine sympathie de Bertrand Blier avouée. Dans la limite, on peut dire courageuse, puisque ça lui vaut les controverses comme celle-ci. Il se met du côté, en effet, de ces jeunes truands, de ces voyous, dont le plus grand courage consiste à truander et à faire peur aux vieilles dames, tout en étant eux-mêmes.
Oui, mais ce sont des vieux gamins.
Non, c'est pas du tout des gamins. Ce sont des personnages.
Si, ils ont 18 ans,
ce sont des personnages dangereux, fielleux,
à 25 ans,
extrêmement antipathiques, qui n'arrêtent pas de faire des choses dangereuses. Et je ne comprends pas comment Bertrand Blier a pu prendre entièrement en sympathie ces personnages. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas un seul citoyen, ou je ne parle pas de la réaction de la société sous la forme d'un flic. Il n'y a personne qui leur boucle le bec. Or, quand on vit par la force, quand on vit dans la loi du plus fort, il arrive fatalement qu'on tombe sur des gens plus forts que soi qui, à un moment ou un autre, vous envoient une baffe sur la gueule.
Si vous voulez, pour qu'on puisse se départager, puisque je crois qu'il y a deux critiques qui apprécient et deux critiques qui détestent ce film, peut-être que dans la salle, quelqu'un pourra intervenir. Monsieur.
Non, je pense qu'il faut souligner le caractère absolument scandaleux de ces films. Des films comme ça ne sont pas du tout étrangers à la montée des courbes de criminalité. Il faut le souligner, c'est absolument un scandale.
Mais c'est
là,
exactement
vous attaquez
ça
au problème de la censure, monsieur.
Tout à l'heure, on disait que ces personnages étaient sympathiques, mais il y a un rapport très net entre la réalité et la fiction, et ces personnages, ils existent. Est-ce que vous croyez que les petits voyous du Kremlin Bicêtre ou de Malakoff sont capables d'interpréter la qualité esthétique de ce film?
Ça, c'est autre
chose. Ils n'en voient que
c'est très important. C'est très important.
Pas du tout. C'est là le problème.
Monsieur,
c'est de plus
monsieur
en plus
je vous remercie.
Il
nous faut poursuivre maintenant parce qu'on a encore bien d'autres films dont ils vont parler, mais peut-être un instant d'abord avec Christian Ivaldi.
Le 9 avril. Intersoir vous est présenté par François Foucard.
Eh bien, quelle journée! Alors que la majorité s'est débattue toute la journée dans une série de coups de théâtre sur lesquels, bien sûr, nous allons revenir, on peut constater que, pratiquement, nous ne recevons aucune information venant de la gauche. Tout simplement parce que là, tout semble, au moins dans l'immédiat, se passer sans heurts après la candidature unique de M. François Mitterrand. Simplement, socialistes, communistes et radicaux de gauche préparent leur campagne. Mais pour la majorité, quelle rude journée! Évidemment, on pourrait résumer le tout en disant « Messieurs Chaban-Delmas et Giscard d'Estaing se maintiennent, Monsieur Mesmer renonce à se présenter ». Mais voyons rapidement le film des événements. Dans la matinée, Pierre Mesmer déclare « En raison des risques de division que représentent plusieurs candidatures dans la majorité, je suis résolu à me présenter si ces candidats se retirent ». Première réaction, Monsieur Edgar Faure. Je retire ma candidature devant celle de Monsieur Pierre Mesmer, mais si les autres candidats ne font pas de même, alors je réfléchirai. Dans l'après-midi, Monsieur Chaban-Delmas est reçu par Monsieur Mesmer, une entrevue très brève, 4 minutes. Un peu plus tard, Monsieur Giscard d'Estaing confirme que si Monsieur Mesmer est bien le seul candidat, il est prêt à se retirer. En fin d'après-midi, nouveau coup de théâtre, M. Mesmer fait savoir qu'il renonce à se présenter, les conditions posées n'ayant pas été réunies. Autrement dit, M. Chaban-Delmas a refusé de s'effacer. Effectivement, à 18h, M. Chaban-Delmas confirme qu'il maintient sa candidature, car dit-il, je me crois le mieux en mesure de barrer la route aux candidats de la gauche. Henri Pajot assistait pour nous à cette conférence de presse.
Une lente réflexion et une résolution ferme m'ont conduit à présenter ma candidature à la présidence de la République. Non seulement parce que je veux reprendre là où elle a été interrompue, la construction d'une nouvelle société plus libre, plus juste et plus humaine, mais aussi parce qu'il faut barrer la route au candidat unique de la gauche. et que je crois être le mieux en mesure de le faire. La France doit être gouvernée et les Français assurés de leur liberté, de la justice et de leurs espérances.
Alors cette fois, le 9 avril 1974, c'est le lendemain de la journée de deuil national, et là, toutes les ambitions se révèlent. Le Premier ministre Messmer va aller jusqu'à convoquer Chaban-Delmas pour lui demander de retirer sa candidature.
Pierre Messmer n'a pas envie d'être lui candidat. En revanche, certains...
Alain Duhamel.
Et vraisemblablement Pierre Juillet et Marie-France Garraud ont envie qu'il le soit pour empêcher Jacques Chaban-Delmas de l'être et pour handicaper Valérie Giscard d'Estaing. Bon, Pierre Messmer, c'est un peu le candidat malgré lui et le candidat par devoir. En réalité, ça n'est pas du tout son espérance personnelle. Il reçoit Jacques Chaban-Delmas pour le décourager, mais il sait très bien que d'un point de vue gaulliste, et Pierre Messmer, c'est vraiment l'orthodoxie gaulliste jusqu'au bout, il sait très bien que Jacques Chaban-Delmas a les qualifications politiques nécessaires pour ça. Et donc, il lui demande de se retirer en pensant qu'il ne sortira pas, et pour avoir fait le geste. Et ceux qui le poussent à lui s'y substituer... S'aperçoivent qu'il y va en reculant.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Juillet et Garraud veulent handicaper, déjà, ils font tout pour saboter la candidature de Chaban-Delmas, mais ils veulent aussi handicaper la candidature de Giscard. Donc ils roulent pour qui, en fait ?
Pierre Juillet et Marie-France Garraud, ils roulent d'abord contre. C'est-à-dire contre Jacques Chaban-Delmas, c'est-à-dire contre le candidat naturel de leur camp. Et là, il y a une dimension personnelle incontestable, mais il y a surtout le fait que le gouvernement qu'a présidé Jacques Chaban-Delmas était sensiblement différent de la ligne qu'incarnait Georges Pompidou. Donc, en ce sens, ils sont décidés à lui régler son compte. Bon, par défaut, je dirais pas qu'ils sont prêts à prendre n'importe qui. Ils sont pas prêts à prendre Edgar Faure, par exemple. Mais ils regardent sans doute Valéry Giscard d'Estaing comme un pis-aller, peut-être un pis-aller nécessaire. Ils veulent surtout stopper Jacques Chaban-Delmas. Bon, et la réalité est qu'ils n'en ont pas les moyens. Et qu'ils s'illusionnent sur leur capacité de conviction et notamment leur capacité à convaincre Pierre Messmer.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce 19e concours de la chanson Eurovision qui a lieu au Dôme de Brighton. Et ce concours passe en direct par le moyen de l'Eurovision, Intervision, dans 32 pays. Donc environ 500 millions de téléspectateurs regardent leur petit écran à ce moment même.
L'Eurovision de la chanson que nous n'avons pu vous présenter samedi dernier en direct du fait de la journée de deuil national. Et nous vous rappelons que, pour cette même raison, l'ORTF s'est retirée de la compétition. C'est la chanteuse Dani qui devait représenter nos couleurs. Je laisse la parole à Pierre Tchernia qui va assurer le commentaire de cette soirée pour vous.
Il nous a semblé qu'il serait gentil, sans doute, que l'on entende tout de même ce soir Dani. Dani qui aurait dû participer à ce concours, Dani qui chantait la chanson de Christine Fontane que vous connaissez, La vie.
C'est l'heure glorieuse de la variété française, bien sûr, mais c'est aussi le théâtre d'une activité intellectuelle intense. Le philosophe Marcuse est accueilli à la fac de Vincennes, où officient déjà Michel Foucault et Gilles Deleuze. les médias rendent compte de ce bouillonnement. Félix Guattari est régulièrement invité sur les ondes pour parler fascisme et psychanalyse. Mais le grand événement, c'est deux samedis de suite, à 23h, Jacques Lacan, invité sur la première chaîne de télévision pour un entretien qui tourne au cours professoral. Même Paris Match en parle. C'est l'exaltation chez les fidèles, le maître sera présent au rendez-vous. La très sophistiquée émission Un certain regard vous permettra de le voir en chair et en os, lui, le gourou suprême de l'école freudienne, le plus célèbre inconnu des psychanalystes français, Jacques Lacan.
La femme n'existe pas.
Sourire de l'auditoire.
Ça, je l'ai dit. Mais qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire. D'où le résultat.
L'auditoire entre en méditation.
Moyennant quoi, l'homme, hein, lui, il existe. Hein. L'homme a se trompé. Rencontre une femme avec laquelle, mon Dieu, tout arrive.
La femme n'existe pas. L'homme, lui, existe. On ne peut pas dire que ça rende la vie facile, ni que ce soit simple à comprendre.
Oui. Je regrette que... en effet, ça paraisse un petit peu compliqué, mais j'y peux rien. C'est pas moi hein, qui ai fait ni l'homme, ni la femme. Enfin, c'est un autre s'en est chargé, enfin, d'après la légende, n'est-ce pas? Bon. Alors, posons d'abord cet axiome. Non, que l'homme n'existe pas, ça c'est le cas de la femme. Mais qu'une femme ne peut que se l'interdire. Je parle de l'homme. Hein. Et ça, pas de ce que ce soit l'autre, parce que l'autre, ses mœurs, nous n'en savons rien, n'est-ce pas? Mais de ce qu'il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas l'autre de l'autre. Ça, c'est ce que je dis, enfin, n'est-ce pas? S'il y avait l'autre de l'autre, il y aurait une garantie. Il y aurait une garantie que ce qu'on dirait, ça serait toujours la vérité. Enfin, parce que l'autre de l'autre réagirait. Bon, il réagit pas. Au niveau de l'autre, ce qu'on dit passe toujours pour la vérité. Mais c'est pas sûr, voilà l'enduit. Alors, l'universel de ce qu'elle désire, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire quand je dis qu'elle ne rencontre l'homme que dans la psychose, n'est-ce pas? L'universel de ce qu'elle désire, c'est tout simplement de la folie. Et c'est pour ça que toutes les femmes sont folles, qu'on dit, n'est-ce pas? Mais, c'est même pourquoi elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire pas folles du tout. Et qu'elles sont plutôt arrangeantes. Elles arrangent. Hein? Et fortement. C'est même au point qu'il n'y a pas de limite aux concessions que chacune fait pour un homme. Son corps, son âme, c'est bien. Simplement, elle en peut, mais pour ses fantasmes dont il est moins facile de répondre. Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens pour celle de l'homme. Et c'est ce qui l'a conduit à la mascarade qu'on sait. Et qui n'est pas du tout le mensonge que des ingrats collés à l'homme lui imputent. C'est l'atout hasard de se préparer pour que le fantasme de l'homme en elle trouve son heure de vérité. C'est pas excessif, hein, puisque la vérité est femme déjà de n'être pas toute à se dire en tout cas.
Le journaliste de Paris Match avait prévenu. à moins de faire partie des 300 initiés des trois sexes qui se pressent sur les bancs du séminaire, faculté de droit, mercredi 11h, vous vous contenterez d'assister sans chercher à comprendre à cet exercice de haute voltige de l'intelligence française. Mais revenons à nos archives. La même semaine à Paris, le metteur en scène Jean-Louis Barrault peaufine les décors de son nouveau théâtre à la gare d'Orsay.
La gare d'Orsay n'est plus tout à fait une gare. C'est déjà un théâtre vivant avec une salle mobile de 900 places. Jean-Louis Barrault s'est mis dans ses meubles, locataire de la SNCF.
Le soir, l'amabilité du chef de gare de la gare d'Orsay est telle que les trains ne passent pas sous la grande salle pendant que nous jouons. Ils passent à côté parce qu'il y a 10 voies. Alors j'ai appris à connaître les voies, les heures des trains, et avec l'assentiment de la SNCF et la gentillesse du chef de gare et du chef de traction, les trains sont sous des voies qui ne nous gênent pas, qui ne donnent pas de vibrations dans la salle pendant que nous jouons.
C'est merveilleux, c'est un bel accord.
Oui, mais c'est ça qui est gentil. Il y a vraiment une atmosphère formidable. Les ingénieurs de la SNCF ont travaillé avec nous, mais comme des frères. Ils avaient le trac, comme nous, le soir de l'inauguration. J'ai pu composer une équipe d'amis avec une coopérative ouvrière. Et puis, nous nous sommes adressés pour la charpente à des ingénieurs spécialisés de charpente, de compagnons du devoir, de Saint-Fond. Ce sont des êtres humains qui se sont habillés de murs, de vulcains, d'héraclites, de bois. On a fait notre costume de théâtre, et là-dedans, l'homme peut vivre. Je crois que c'est chaud immédiatement.
Puis ce foyer extraordinaire.
Ah, le foyer, oui, ben ça, c'est ma petite manie. Et j'ai fait un montage de nos anciens décors. Et si bien que dans ce foyer, vous avez des toiles de Max Ernst, des toiles d'André Masson, de Félix Labisse, enfin, tous nos décorateurs et tous nos peintres qui sont parmi des grands peintres. Si bien que le foyer a beaucoup d'atmosphère. Et même son lustre n'est autre que l'ADN que j'ai emprunté chez le professeur Jacques Monod à l'Institut Pasteur.
Après cette incroyable journée, la situation est peut-être plus claire ce soir, finalement, du côté de la majorité. Il reste officiellement deux candidats, messieurs Chaban-Delmas et Giscard d'Estaing. Quant à monsieur Edgar Faure, qui avait déclaré qu'il se retirerait si monsieur Mesmer était le seul candidat, il n'a pas encore officiellement réagi à la décision de monsieur Chaban-Delmas.
Edgar Faure, c'était le plus brillant des présidents du Conseil de la 4e République.
Alain Duhamel.
C'était un avocat, un écrivain, mais surtout un homme politique absolument étincelant, qui avait été un très bon président de l'Assemblée aussi, qui avait été un ministre pour le portefeuille le plus difficile après 1968, qui était celui de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ça n'était vraiment pas une sinécure. Bon, c'était un personnage. Mais il était seul. Il n'avait aucun parti derrière lui. Il ne s'était pas préparé. Il a tenté un coup. Je pense qu'il savait bien que ses chances de réussite étaient très faibles. Mais en même temps, c'était une façon de préserver son importance sur la scène publique et donc de prendre date pour la suite. Et parce qu'il ne renonçait à rien. D'ailleurs, les hommes politiques ne renoncent jamais à rien. Et lui en particulier. Alors, en fait, ça a été un échec absolu puisqu'il n'a pas eu l'occasion de mener campagne. Et donc, il n'a pas eu l'occasion notamment de déployer son talent oratoire qui était, je pense, supérieur à celui de tous les candidats.
Et à gauche, direz-vous bien, à gauche, je vous le disais tout à l'heure, on s'est contenté d'observer les péripéties de cette journée et François Mitterrand a déclaré que tout cela ne le concernait pas. Pour lui, au moins dans l'immédiat, il n'y a pas de problème. Il est le candidat de la gauche et il va s'installer avec son état-major dans des locaux de la tour Maine-Montparnasse. Enfin, pour la petite histoire, voici que s'annonce le 19e ou 20e candidat, je ne sais plus. Il s'agit de M. Maurice Gardette, l'un des responsables de Radio Monte-Carlo, et qui, dit-il, espère que les gens de bon sens se rallieront à lui pour retrouver le bon goût et la joie de vivre.
La grande nouveauté de cette élection, et pour certains le grand danger, c'est l'union de la gauche.
Alors, l'originalité de la situation par rapport à des présidentielles ultérieures, c'est que François Mitterrand est le candidat de toute la gauche. Il ne faut pas oublier qu'il avait fini par l'être en 65 pour sa première tentative, également le candidat de toute la gauche. Bon, mais là, les communistes acceptent de se retirer pour que ce soit lui. Donc il est le candidat de toute la gauche. Il a toujours beaucoup regretté de ne pas avoir été élu à cette élection-là, parce qu'il pensait d'abord qu'il était plus en forme, qu'il avait le meilleur âge, et puis parce qu'il pensait qu'il avait les mains beaucoup plus libres, en particulier en matière de programme. Là, il avait l'avantage, en 1974, de se présenter comme quelqu'un ayant déjà obtenu un score extrêmement honorable en face du général de Gaulle lui-même, et quelqu'un qui était porteur d'une certaine gauche, mais pas d'une gauche terrifiante.
Oui, c'est ça. Il y a le Parti communiste, le Parti socialiste.
Et les radicaux de gauche.
Et le PSU.
Le PSU était y allait à reculons. Puis de toute façon, électoralement, il ne pesait pas beaucoup. Mais les radicaux de gauche, en revanche, avaient leur rôle parce que c'était l'appoint du centre qui était nécessaire. Et évidemment, l'avantage de la situation pour François Mitterrand était que, comme les communistes avaient vraiment accepté de s'effacer, du coup, il avait les mains plus libres pour tenir un langage plus rassurant qui, justement, permettait aux radicaux de gauche de le soutenir et à des centristes de regarder de son côté. Bon, ce qui est, en réalité, ne s'est pas assez produit pour lui, puisqu'ils ont regardé plutôt du côté de Valéry Giscard d'Estaing.
Nous avons dans notre studio ce soir M. Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, et avec Roger Michaud, Patrick Poivre d'Arvor, Hugues Girard et Dominique Bromberger, nous allons faire le tour des perspectives qui s'ouvrent et du Parti communiste face à l'élection présidentielle. Patrick Poivre d'Arvor.
Georges Marchais, je vais vous poser une question très crue. Certains commentateurs, que vous jugerez peut-être un peu machiavéliques, ont dit que vous n'aviez pas vraiment envie de voir si tôt François Mitterrand arriver au pouvoir. On a dit que vous n'étiez pas prêt si vite.
Vous savez, on m'en prête des intentions.
À vous et au Parti communiste.
On a voulu, oui, à travers ma personne, au Parti communiste. On a voulu faire de moi un candidat à la présidence de la République. On veut faire de moi un Premier ministre. Par contre, d'autres disent, les communistes ne veulent pas, au fond, aller au pouvoir avec leurs alliés. Mais écoutez, je vous demande de réfléchir quand même quelques minutes. Cela fait maintenant exactement 12 ans que nous menons la bataille, que nous avons mené la bataille pour un programme commun de gouvernement avec la gauche. Je dis bien un programme commun de gouvernement. Battre pour un programme commun, c'est moi répondre, pour un programme commun de gouvernement, cela veut donc bien dire que nous souhaitons prendre notre part dans la gestion des affaires du pays avec nos alliés. Par conséquent, dans la bataille des élections législatives, nous avons tout fait pour que la gauche l'emporte. Et aujourd'hui, le Parti communiste français jette toutes ses forces dans la bataille pour assurer le succès du candidat commun de la gauche sur la base des orientations fondamentales du programme commun de la gauche. Toutes nos forces dans la bataille.
Valéry Giscard d'Estaing, pour sa part, a affirmé en se déclarant candidat qu'il fallait qu'il y ait dans cette bataille un homme qui ait eu jusqu'au bout la confiance du président Pompidou. Et il a fait appel aux électeurs de ce qu'il a appelé une majorité élargie. UDR, mais aussi centristes, réformateurs et tous ceux qui s'opposent au régime que pourrait proposer François Mitterrand. Dans le programme du leader républicain indépendant, justice et progrès social, respect des règles démocratiques et protection de la liberté. Dans le même temps, outre M. Chaban-Delmas qui reste bien entendu le candidat de l'UDR, M. Edgar Faure a précisé également qu'il restait candidat, mais il a lancé une sorte de message pour dire qu'une candidature unique de la majorité était très souhaitable, laissant entendre qu'il pourrait se retirer si l'on parvenait à déboucher sur cette candidature unique. Ajoutant enfin que celui qui veut être le candidat de la droite, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, a donné une conférence de presse affirmant Ma candidature est celle de la droite et d'un programme de salut public pour un État fort, une France libre et fraternelle. Enfin, faut-il dire que nous en sommes ce soir au chiffre quasi extravagant de 18 candidats. Le dernier, un certain monsieur Van Berg, se présente pour un monde idéal sans pauvres ni soldats. Et ce n'est pas fini, on nous en annonce un 19e pour aujourd'hui, celui qui veut représenter les travailleurs immigrés. À l'étranger, les combats sont à présent quotidiens sur le Golan. Et hier, un avion fantôme israélien a été abattu et s'est écrasé dans le sud du Liban.
Tel Aviv précise que les deux pilotes ont pu s'éjecter en parachute. Ils ont été capturés, dit-on, à Beyrouth. Sur le front israélo-syrien, de violents duels d'artillerie ont opposé une nouvelle fois les forces en présence. Damas annonce la destruction de 3 chars israéliens et stations radio. À Tel Aviv, on annonce la capture d'un des commandos syriens qui avait tenté samedi de construire une position avancée sur le mont Hermon. Et puis, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger de 6 mois jusqu'au 24 octobre le mandat de la force d'urgence de l'ONU au Proche-Orient. L'Irak, qui préside le Conseil, et la Chine n'ont pas participé au vote de la résolution.
France Inter, il est 00h07. Des informations à nouveau à 1h du matin.
Ce printemps 74, au cinéma, on peut parler d'un retour du refoulé. En l'espace de quelques semaines, 4 films portant sur la Seconde Guerre mondiale sortent sur les écrans. Il y a des comédies lourdaudes comme Grosse Paris ou Le Führer en folie avec Henri Tiseau dans le rôle d'Hitler et Alice Sapritch dans celui d'Eva Braun. Mais il y a aussi Portier de nuit de Liliana Cavani qui fera scandale. Et bien sûr, La Combe Lucien de Louis Malle. La société française est manifestement taraudée par un passé qui ne passe pas. Et ce, à peine 1 an et demi après que Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise, ait été gracié par le président Pompidou. À l'époque, le 21 septembre 72, le président s'en était expliqué. Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Ce fut la guerre, la défaite et ses humiliations, l'occupation et ses horreurs. La libération et par contre-coup l'épuration et ses excès, reconnaissons-le. Et puis la guerre d'Indochine, et puis l'affreux conflit d'Algérie et ses horreurs des deux côtés. Et l'exode d'un million de Français, chassés de leur foyer, et du coup l'OAS, et ses attentats, et ses violences, et par contre-coup la répression. Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient, et je ne dis pas ça par calcul politique, je le dis par respect de la France. 1 an et demi après la grâce de Touvier, qui sera, je le rappelle, condamné pour complicité de crimes contre l'humanité en avril 1994, et quelques jours à peine après la mort du président Pompidou, il semblerait bien que la France ait finalement décidé de lever le voile.
Gilles Granger, comment expliquez-vous ce phénomène actuellement? On voit énormément de films qui ont trait à l'époque de l'occupation. Il y a les films sérieux, comme L'Ironie du sort, comme La Combe Lucien, et puis d'autres, beaucoup plus farfelus, comme on le disait tout à l'heure avec Dominique Bomberger et Henri Tiseau.
Oui. La passion d'Henri Tiseau pour les grands de ce monde semble plus vive que jamais, puisque dans le film de Philippe Clair, Le Fourreur en folie, il incarne tout simplement la personne de Hitler. Et son égérie, sa compagne, l'Eva Braun de l'histoire, n'est autre qu'Alice Sapritch. Ce film sort dès cet après-midi sur les écrans et il va sans doute déclencher pas mal de réactions, Gilbert Picard.
Oui, Philippe Clair n'est pas le premier metteur en scène à avoir voulu ridiculiser Le Fourreur. Avant lui, Lubitsch avait réalisé To Be or Not To Be, puis Chaplin le dictateur, et enfin Jerry Lewis, Yaya mon général. Mais Philippe Clair est allé encore beaucoup plus loin que ses prédécesseurs dans le burlesque, la démesure, l'absurde, le délire. L'histoire en 2 mots, si vous le voulez, Hitler est passionné de football et il a imaginé conquérir le monde, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur les terrains de sport. La France est un obstacle car son équipe est championne du monde.
Ça fait bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé, enfin.
Oui. Mais dans le film, tout est possible. Passons sous silence toutes les péripéties de ce film, mais disons qu'il se termine par un match de foot dément qui est en quelque sorte une satire de la stratégie militaire. Tout est prétexte à un gag. Il y en a de bons, il y en a de moins bons, et puis il faut le dire, il y en a d'autres qui tombent un peu à plat. Le Führer en folie va-t-il déclencher des polémiques, des passions? Eh bien, très certainement. Il est bien difficile de réussir un film burlesque en traitant d'un sujet aussi grave que celui de la guerre. Pour Philippe Clair, Hitler est un clown, mais il a peut-être oublié qu'avant d'être un comique, il était aussi et peut-être avant tout un monstre sanguinaire. Et de ce fait, ceux qui ont connu l'époque de la Deuxième Guerre mondiale trouveront peut-être très maladroit d'avoir traité un tel sujet avec tant de légèreté, voire même d'inconscience.
Lucien.
Je sais pas danser.
Mais il faut apprendre.
Pour Le Masque et la Plume, le film qui fera date, c'est La Combe Lucien, de Louis Malle.
Bon, il y a aussi le Ferry, il n'y a pas que le mal. Il y a le Ferry. Voulez-vous, je vous livre qui? Je vous livre le mal.
Parce que naturellement, on va, comme mal, d'habitude,
c'est pas
laisser
mais
tomber
non,
le film de mal.
Ne vous inquiétez pas, cher Ansol, je veille. Non, le mal. Alors, La Combe Lucien, film de Louis Malle, avec des comédiens inconnus, ou plus exactement avec des... Enfin, comédiens, avec
que
un...
Que les Français ne connaissent pas.
Avec, en tout cas, un comédien inconnu dans le rôle principal, puisque c'est un...
C'est pas un comédien.
C'est pas un comédien, je crois que c'est un scieur en long. Comme
la jeune fille aussi est un
comédien. Aurore Clément n'est pas une comédienne.
C'est un mannequin.
C'est un mannequin.
Ah, c'est un mannequin. Oui. Tiens, remarquable comédienne.
Avec non, remarquablement dirigée.
Oui, aussi.
C'est ça qu'il faut dire.
Aussi. Bon, voulez-vous qu'on dise un petit peu de quoi il s'agit? Gilles fait ça très bien en général, la fiche signalétique d'un film.
Allons-y.
Tu peux t'attendre?
Non. Tout si on me laisse assez de temps pour ne pas
faire
que ça.
Ah non, pas trop. Fais-le en 15 lignes, tu vois.
En 15 lignes. Bon. C'est pas facile. C'est l'histoire d'un adolescent de 17 ans qui va virer à la Gestapo. Ça se passe en 1944 dans le sud-ouest de la France. Et c'est la vie de ce jeune homme et les rapports qu'il entretiendra avec une famille juive réfugiée là, un tailleur parisien, sa mère et sa fille. Réfugiée là et cachée dans cette petite ville du sud-ouest. Malle prend bien soin de préciser, ce qui est une vérité historique, que la Gestapo à l'époque était tenue par des Français, tout au moins dans le sud-ouest de la France.
Pas seulement dans le sud-ouest.
Ouais. Enfin, pas, dans
c'est pas d'ailleurs la Gestapo.
Maintenant. Non.
C'est
la police allemande.
Ce sont des collaborateurs français de la police allemande. C'est vraiment la police. C'est pas la Gestapo, à un moment
donné. On les appelait à l'époque, ça c'est...
Oui.
Nous avons vécu ça, enfin.
Oui.
On les appelait les gestapistes.
Oui,
mais c'était pas du tout la Gestapo qui est allemande.
Non, à un moment donné, on appelle la Commandantur.
Oui.
La Commandantur, c'est pas Gestapo.
Non, c'est l'armée.
Non.
Appelons.
Ce sont des Français qui sont au service des Allemands.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
C'est très précis.
Oui.
Et historiquement précis.
Historiquement précis.
C'est une catégorie à part.
Ça n'a pas de nom.
Alors, c'est un...
Tu vas revenir. Tu as fait ton travail de journaliste, tu feras ton travail de critique ensuite.
Moi, c'est un film que je trouve admirable. Admirable, d'abord parce que sur un sujet qui est extrêmement délicat et qui blesse encore beaucoup de gens, on l'a vu à la sortie du Chagrin et la Pitié, on l'a vu à Français si vous saviez, etc. Même 20 ans après, des tas de gens, et c'est normal, par cette période de notre histoire qui a été à la fois ignoble, horrible et parfois grandiose, des tas de gens se sentent écorchés vifs. Or, Louis Malle, naturellement, n'est pas exactement de ma génération. Par conséquent, si vous voulez, il n'a pas participé aux événements comme ceux qui de ma génération l'ont fait directement. Mais je veux dire que je trouve ce film admirable parce qu'il a réussi, justement, à être historiquement et humainement vrai. C'est-à-dire, il a su montrer une réalité qui est parfois extrêmement déplaisante, parfois féroce, parfois sauvage, avec tellement... pas de sympathie, mais d'attention, d'attention non pas pour les personnages, mais pour l'humanité en général, sachant que l'humanité pouvait être une chose assez sale, assez triste, assez lamentable, et que pourtant, elle est capable peut-être de bonnes choses. Eh bien, il y a cette position générale devant les gens qui fait que le film est proprement bouleversant. Bouleversant parce qu'il raconte comment, justement, on peut se trouver criminel, traître, sans l'avoir vraiment voulu.
Et que ça peut basculer, même jusqu'à la fin.
Car
il y a l'arrivée du maquisard.
Tout peut changer. C'est que justement, la notion même de héros est discutable, est contestable, elle est trouble. Jamais un héros n'est tout à fait blanc, jamais un salaud n'est tout à fait noir. Que dans l'évolution historique, il y a une part d'effets, d'événements devant lesquels l'individu est impuissant. Surtout, pas tous les individus, il y a des individus qui sont assez forts pour tenir les faits et les plier à leur idée, etc. Mais quand quelqu'un n'a pas d'idée, ce qui est le cas du gosse. Le gosse est un petit gamin de 17 ans, donc beaucoup trop jeune déjà pour avoir des idées, et qui par sa classe, et c'est là où le film de Mal est intéressant, qui par sa classe, parce que c'est un pauvre, donc, et un paysan, c'est pas un petit pauvre des villes a des idées, un petit pauvre des champs, c'est pas vrai. Eh bien parce que c'est un pauvre et un petit paysan, n'a pas d'opinion, n'a pas d'idées, n'a pas d'armature intérieure, n'a pas de conscience, et que par conséquent il est le jouet des faits. Et justement les faits jouent avec lui. Et il joue d'une telle façon... Eh bien, qui se trouve du mauvais côté de la barricade. Et ça s'est fait avec une discrétion, une espèce de chaleur, d'exactitude dans le détail qui fait du film de Mal une très grande œuvre. Et, moi, quand Gilles parle, ou je ne sais plus si c'est Michel Simon qui a dit qu'il était une petite brute, un petit viol, c'est pas vrai. Moi, je suis Mérévillois Beauceron, si vous voulez. Tous mes petits copains de classe avaient leur fronde dans la poche et tiraient les écureuils et les oiseaux. Ce qui me faisait trépigner de rage, parce que moi j'étais déjà un petit intellectuel citadin. Bon, mais oui, le petit paysan n'est pas un violent, simplement il sait que les rapports entre la nature et lui sont des rapports de force. Il a une fronde, mais c'est très important, et Louis Malle le montre au début.
C'est la première image,
c'est la première image, mais c'est pour ça qu'elle est là. Oui, on va pas dire, oh, c'est un futur bourreau parce qu'il tue un oiseau, quelle connerie. Il tue un oiseau parce que c'est un petit paysan. Et alors justement, mais c'est ça, et lorsque les rapports qu'il a entre les gens sont des rapports d'humiliés, sont des rapports, justement, d'objets. Le film montre que l'histoire, pour une certaine catégorie de gens, est toujours catastrophique. Quels que soient les bouleversements de l'histoire, ce sont toujours les pauvres cons qui trinquent.
Bien, merci bien. Jean-Louis Bory. Gilles Jacob, nous aurons l'occasion de reparler de ce film avec Louis Malle dans une prochaine émission, et on pourra lui poser des tas de questions, moi j'en ai aussi, mais Gilles Jacob n'a pas encore dit ce qu'il pensait vraiment.
C'est-à-dire qu'évidemment, on a un peu honte d'employer toute l'année des adjectifs élogieux pour un grand nombre de films, parce que quand on tombe sur un film comme ça, alors on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va employer comme adjectif?
Vous n'aviez qu'à pas trop les gaspiller pour l'horloger de Saint-Paul.
Parce que, oui, peut-être, oui, ça c'est possible. Mais cela dit, pour ce que disait Jean-Louis Bory concernant la violence, là, moi, je crois qu'il y a quand même un goût de revanche chez ce gosse-là. Et c'est pas seulement parce qu'à la première image, il tue un oiseau, mais c'est constamment, tous les animaux y passent. Un petit peu plus tard, c'est un lapin.
Mais c'est la réalité banale dans une ferme, peut-être, Gilles, voyons. Peut-être, on passe à tuer des lapins et à tordre le cou aux des poules.
Il faudrait vraiment
de Paris pour dire « Ah, oh, il a tué un lapin !»
Non, Jean-Louis...
En tout cas...
C'est vrai.
Non,
vous écoutez France Inter, il est 19h juste.
Le 11 avril.
André Sabas présente Intersoir.
18 morts, en grande partie des femmes et des enfants, le raid palestinien contre un petit village d'Israël a ce soir deux conséquences. Il provoque un réflexe national dans le pays, et cela au lendemain de la crise gouvernementale, et puis il vient accroître encore la tension entre Israël et le Liban. En France, la campagne présidentielle suite. Aujourd'hui, un nouveau candidat, Jean Royer. Deux déclarations, une conférence de presse de Giscard d'Estaing cet après-midi, des déclarations de Chaban Delmas ce matin au cours du premier des petits déjeuners des candidats à France Inter. Un conflit social s'achève, les pilotes d'Air France prêts à reprendre le travail. Réquisitoire dans l'affaire Philips, 20 ans de réclusion criminelle requis contre le tueur à la Porsche. Enfin, la course autour du monde se termine, le Great Britain était à Portsmouth cet après-midi. Jean Royer est donc candidat, on en parlait beaucoup depuis ce matin, c'est maintenant officiel. Le ministre des PTT en a informé dans l'après-midi le Premier ministre, et puis il est revenu à son ministère pour annoncer là-bas sa candidature, et immédiatement il a décidé de démissionner de son poste. Alors Patrick Poivre d'Arvor, quelle réaction après cette décision, après cette étonnante candidature?
Oui, étonnante à défaut d'être inattendue. Eh bien, après la tentative avortée d'une candidature Mesmer, après le retrait de la candidature d'Edgar Faure, on pouvait penser que la situation était relativement clarifiée du côté de la majorité, un duel Giscard-Chaban. Or, que voit-on? Un nouvel élément de cette majorité, non inscrit certes, mais ministre en fonction du cabinet Mesmer, se présenter. Première réaction, surtout du côté des amis de Jacques Chaban-Delmas, c'est peut-être une dernière manœuvre des pompidoliens de Pierre Juillet et de Jacques Chirac pour gêner le maire de Bordeaux. Réponse immédiate de l'entourage de Jacques Chirac ce matin, le ministre de l'Intérieur a bien rencontré son collègue des PTT, mais c'était pour le dissuader de se présenter. D'ailleurs, rappelez Jacques Chirac, j'étais partisan d'une candidature unique de la majorité. Mais Jean Royer avait ses partisans, par exemple le Parisien libéré.
Une candidature marginale sérieuse. Voilà comment on pourrait qualifier la candidature de René Dumont aux élections présidentielles. Le professeur d'agronomie ne brigue pas la magistrature suprême, on le sait, il entend simplement saisir l'occasion que vont lui offrir la télévision et les ondes pour défendre ses idées sur l'environnement et sur le tiers-monde. Et il a expliqué la signification de sa candidature à Yves-Paul Vincent.
Cette signification, c'est de défendre des points de vue qui ne seront pas défendus par les autres candidats, celle d'une menace extrêmement grave qui pèse sur notre civilisation, celle qu'a exprimé notamment le Club de Rome, celle qu'ont exprimé les écologistes anglais et celle qu'exprime l'ensemble des associations écologistes françaises qui s'inquiètent de plus en plus de voir une destruction inconsidérée de l'environnement. L'environnement est détruit par les autoroutes alors que les métros prendraient beaucoup moins de place. L'environnement est détruit par un urbanisme délirant alors qu'il n'est pas nécessaire que tous les Français se concentrent dans les villes. L'environnement est détruit par l'abus de l'automobile particulière qui est en train de consommer des quantités énormes de pétrole qui nous coûte de plus en plus cher, qu'on devra payer finalement en exportant les armes. Toutes sortes de menaces pèsent, la destruction du bocage qui est réalisée actuellement en Bretagne, et enfin toute la série de pollution des airs et des eaux, dont on ne sait pas si ça ne va pas finalement altérer définitivement notre écosystème, dont on ne sait pas si ça ne va pas altérer définitivement les climats, dont on ne sait pas finalement mesurer toutes les menaces que cela fait peser sur nos arrière-petits-enfants. Alors là, il y a des responsabilités que les autres ne prennent pas, puisque les autres candidats n'en parlent pas, et je pense qu'il faut alerter l'opinion publique française sur ces points-là. La destruction de l'écologie menace d'une famine effroyable l'ensemble du tiers-monde. Notre surconsommation de viande nous fait prendre chaque année de plus en plus de céréales. Il y a actuellement à travers le monde des gens qui mangent une tonne de céréales par an et par tête d'habitant transformée sous forme de viande, d'autres qui en sont à 125 ou 150 kilos et qui n'en ont pas assez. Et par conséquent, j'insisterai non seulement sur les menaces que l'environnement fait peser sur la France, mais plus encore sur les menaces que la destruction de l'environnement et la destruction des sociétés traditionnelles fait peser sur l'ensemble des pays du tiers-monde qui sont actuellement affamés. Et la famine mondiale que j'annonçais hélas dès 1966 prend des proportions telles que si nous ne nous rendons pas compte de ce qui se passe, nous allons à des catastrophes effroyables dont on ne peut même pas mesurer l'ampleur.
C'est le retour en force de la science-fiction. Aux classiques du genre qui sont repris régulièrement, viennent s'ajouter ce mois-ci quelques grands films dont le succès mondial va sans doute se confirmer en France. Après Monde Ouest, un western de l'an 2000, peuplé de robots, on verra Soleil Vert, de Richard Fleischer, avec Charlton Heston et Edward G. Robinson. C'est une tragédie de la surpopulation et de la famine en 2024.
Le 14 avril.
Éric Gilbert, nous commençons ce journal en voyant le dernier en date des rebondissements de la campagne électorale.
Oui, et les retombées de ce rebondissement, à savoir cet appel à la candidature unique lancé hier soir. Le texte était signé, je vous le rappelle, de 4 membres du gouvernement dans l'ordre alphabétique. Jacques Chirac, ministre de l'Intérieur, Jean-Philippe Leca, ministre de l'Information, Olivier Stirn, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, et M. Jean Tétinger, ministre de la Justice. Suivez ces signatures, celles de 39 députés de la majorité, 39 députés UDR. Et tout de suite, disons que dans toute la classe politique, ça a été une seule exclamation, décidément, Jacques Chirac ne renonce pas à stopper M. Chaban-Delmas, car pour toute cette classe politique, l'opération était encore une sorte de contre-feu pour stopper la candidature de M. Chaban-Delmas. Je vous propose d'écouter tout de suite les explications fournies à Alain Trampolieri par l'un des signataires de ce texte. Il s'agit de M. Mario Bénard, député UDR du Var, maire d'hier. Voici donc les explications que M. Bénard a fournies à Alain Trampolieri.
Nous étions un certain nombre à souhaiter une candidature unique de la majorité. Pourquoi souhaitions-nous cette candidature unique ? Parce que nous craignions qu'à défaut, il y ait tant de gens qui veuillent se présenter que les électeurs de la majorité soient quelque peu découragés, pour ne pas dire écœurés. La constatation, c'est malheureusement que nous avions raison, puisque par rapport à dimanche dernier, ou même par rapport à mardi dernier, la situation est tout à fait nouvelle. Il n'y a plus seulement M. Jacques Chaban-Delmas et M. Valéry Giscard d'Estaing, double candidature qui, en soi, n'eût pas été une mauvaise chose. Mais il y a en plus M. Royer, sans compter, bien sûr, M. Fouché. Ça change considérablement les choses. Et c'est là où, si vous voulez, on arrive à une conclusion. C'est que maintenant que nous avons trois candidats dont, incontestablement, les résultats seront considérables, le risque n'est pas exclu que mardi, à la dernière seconde, la gauche, au lieu de présenter M. Mitran seul, décide à la dernière minute de présenter également un candidat au titre du Parti communiste. Or, je vous rappelle qu'au premier tour, tout le monde peut se présenter, mais qu'au second, ne seront retenus que les deux qui auront fait le plus de voix. Imaginez que ceux qui feront le plus de voix soient M. Mitran et M. Ballanger, parce que les candidats de la majorité en temps trop nombreux n'en auraient pas assez à se partager. Voyez la tête que feraient les Français en se réveillant le lendemain du premier tour. C'est un risque tout à fait nouveau. Et enfin, d'autre part, si les électeurs pouvaient trouver assez normal qu'il y ait deux grands candidats de la majorité, nous craignons beaucoup que devant trois ou même quatre, ils soient quelque peu découragés et tentés de s'abstenir. Or, n'oublions pas que le calcul des 50% qui permettent d'être élus ne se fait pas par rapport au total des inscrits, mais par rapport au nombre des gens qui ont voté, ce qui veut dire que tout abstentionniste aurait été votera pour M. Mitran. Voilà les deux craintes que nous avons, la situation nouvelle qui fait que nous voulons nous réunir pour tirer de cette situation nouvelle une position.
Les candidats, eux, gardent le silence. M. Mitterrand est dans les Landes, M. Giscard d'Estaing dans le Loir-et-Cher, Jacques Chaban-Delmas à Paris. Tous, bien sûr, préparent activement la campagne électorale qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Je vous rappelle que le dépôt des candidatures, le dépôt officiel, doit être fait mardi 16 avril avant minuit.
Ce 14 avril, donc deux jours avant la clôture officielle des candidatures à l'élection, il y a un dernier coup de théâtre à droite, c'est l'appel des 43.
Alors l'appel des 43, c'est Jacques Chirac, Pierre Juillet et Marie-France Garraud. Et là, c'était l'opération, cette fois-ci explicite et publique, mais même théâtrale. Alors qu'avant, c'était en coulisses que ça s'était joué pour essayer de déterminer Pierre Messmer, le faire recevoir Jacques Chaban-Delmas. Là, c'était vraiment du public. Et c'était la rupture, c'était une forme d'absence de loyauté totale. Compte tenu de ce qu'étaient les gaullistes, leur histoire, leur organisation, il faut employer les mots pour ce qu'ils sont. C'était une trahison au sens propre, c'était une trahison politique. Alors, ça pouvait être pour des causes très nobles, en se disant que l'intérêt de la France était que ça ne soit pas Jacques Chaban-Delmas. Bon, ça avait un côté vendetta, hein, du clan pompidolien contre Jacques Chaban-Delmas. Ça avait un côté conte d'Authiers, c'est-à-dire on tente dans des conditions incroyables, romanesques, un coup que personne n'avait jamais imaginé, avec une férocité instinctive. Bon, et ça marche. Ça marche parce qu'ils arrivent à entraîner suffisamment de, notamment de députés gaullistes, ébranlés par des premières erreurs de Jacques Chaban-Delmas, à commencer par le fait de se précipiter pour annoncer sa candidature. Et puis, il faut être clair, parmi les députés gaullistes, il y en a qui étaient des chabanistes qui voulaient, disons, une conception moderne et différente et réorientée du gaullisme, mais il y en avait beaucoup Il ne faut pas oublier ce qu'avaient été les élections de 73, qui étaient aussi des gaullistes de vieille souche, purs et durs, mais plutôt du côté conservateur, voire réactionnaire. Et cela, pour cela, Jacques Chaban-Delmas, c'était le diable.
Le 15 avril.
J'ai donc décidé avec résolution de retirer ma candidature en faveur de Monsieur Jacques Chaban-Delmas.
Cette voix, c'est celle de Christian Fouché, ancien ministre du général de Gaulle, qui avait pris ses distances avec l'UDR depuis 2 ans et qui était candidat à l'élection présidentielle jusqu'à ce matin. Voilà le dernier développement de la campagne électorale que nous analyserons en compagnie d'Henri Pajot. Arlette Laguiller, candidate du mouvement Lutte ouvrière, sera l'invitée d'Interactualité Magazine.
Et cela dit, pour en venir à M. Christian Fouché, son désistement en faveur de M. Chaban-Delmas peut aussi être imputé au fait que ce vieux gaulliste ne s'était vu accorder qu'1% des intentions de vote par les différents sondages effectués récemment.
Et puis, Éric Gilbert, il y a aussi les aspects constitutionnels de cette campagne électorale qui se rapprochent.
Eh oui, et demain soir, c'est du côté du Palais Royal qu'il va falloir nous rendre pour suivre cette actualité. En effet, demain soir, le Conseil constitutionnel doit ouvrir et rester ouvert jusqu'à minuit pour recevoir les dépôts des candidatures. Vu le nombre des candidats, on peut prévoir une certaine bousculade. En tout cas, la formalité va se dérouler suivant un rite bien établi, Hugues Girard.
Eh oui, la Constitution a fixé en novembre 1962 les modalités exactes de la candidature à la présidence de la République. 18 jours avant le premier tour du scrutin, c'est-à-dire pour le cas présent demain soir, minuit, les candidats doivent adresser à titre individuel ou collectif au moins 100 signatures au Conseil constitutionnel. Ces 100 signatures doivent être recueillies chez les membres du Parlement, du Conseil économique et social. Les conseillers généraux et les maires élus peuvent également signer. Cela représente au total environ 42 000 personnes susceptibles de parrainer un candidat. Il faut que ces 100 signatures, et c'est important, émanent de 10 départements ou territoires d'outre-mer différents. La liste des signataires est gardée secrète. Les parrains possibles n'ont le droit de signer que pour un seul candidat. Le Conseil constitutionnel doit s'assurer par ailleurs du consentement des personnes présentées. Cela veut dire que l'on ne peut pas être candidat contre son gré. Le Conseil constitutionnel vérifie aussi la légalité des candidatures. Cela prend un certain temps, ce qui explique que la liste officielle des candidats ne sera publiée au journal officiel que vendredi prochain. La veille au soir, c'est-à-dire jeudi, tous les candidats retenus devront déposer au trésorier payeur de leur domicile une caution de 10 000 francs. Cette caution est perdue pour les candidats qui auraient recueilli moins de 5% des suffrages exprimés. S'ils dépassent ce chiffre, eh bien ils recevront non seulement la caution, mais une somme forfaitaire de 100 000 francs pour les dédommager de leur campagne électorale. Tout cela devrait décourager les candidatures fantaisistes, mais en fait, il n'en est rien. Une quinzaine au moins de candidats auraient déjà recueilli les 100 signatures. Est-ce à dire que les élus accordent trop facilement leur parrainage à Alain Poher, en tout cas le président de la République par intérim, leur demande maintenant d'y regarder à 2 fois avant de signer.
Merci à Alain Duhamel. Prise de son, Lucien Lefebvre et Antoine Espel. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Anne-Lise Signoret et Corinne Chauvel. Archivina, Pierre Pinault. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. C'était 1974, Pompidou est mort. Un documentaire de Christelle Le Polothèque réalisé par Anne Fleury. À suivre, Drôle de campagne.